Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Un des mots qui revient le plus souvent dans le monde des entreprises, c'est le mot start-up. Mais est-ce qu'une start-up, c'est tout simplement une entreprise qui débute? Eh bien non. Pour la BPI, une start-up, c'est une entreprise nouvelle, innovante, à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future. Et elle doit démarrer par une phase d'expérimentation de son marché et son modèle économique. Je l'ai dit. Parmi les façons de démarrer et de développer une start-up, une des plus séduisantes est d'être hébergé dans un incubateur ou campus. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en France, en plein Paris, le plus gros campus de start-up au monde, la Station F. Aidé dans cet environnement, coucouné, nombreux sont celles qui ont pu ensuite voler de leurs propres ailes, voire devenir célèbres. Pour mieux connaître ce campus, trois start-up aujourd'hui passées par la Station F. Invitro, fondée par Alexandra Boussommier, Emmanuel Dibault, fondateur de Posos, et Reda Quadra, fondateur de Healthy Mind, qui sont nos invités aujourd'hui, ainsi que Marwan Elfites, directeur des programmes Startup de la Station F, et Anthony Verapin, responsable Startup chez Microsoft. Check-up Santé, le plus grand hébergeur de Startup Santé du PAF, c'est parti. Alexandra Boussommier, bonjour.
Bonjour.
Marwan Elfites, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez donc les programmes start-up de la Station F. La Station F, c'est le campus de tous les records.
Exactement. On est lancé depuis plus de 3 ans maintenant déjà, en 2017. Ouais. On a près de 1200 start-up par an qui sont accompagnés par une trentaine de programmes. Donc, c'est assez colossal.
Oui. Un véritable paquebot.
Et qui tourne avec énormément d'acteurs et de l'écosystème qui sont avec nous.
Ouais, donc des startups. Vous avez dit plus de 1000 startups qui sont passées par chez vous, donc qui arrivent, qui repartent.
Effectivement, elles doivent postuler pour rentrer à la Station F et doivent choisir le track, donc le programme qui leur convient. Un programme va se différencier par sa thématique, le niveau de maturité, les experts qu'ils vont apporter. Et puis effectivement, après, ils doivent voler de leurs propres ailes.
La superficie de Station F
34 000 m².
D'accord.
C'est la taille de la tour Eiffel couchée.
Et le personnel, tout compris, tout confondu. Bon, comprenant les restaurants, comprenant la gestion, la logistique.
Sur le campus au quotidien, on va avoir plus de 3000 personnes. Si on prend les entrepreneurs, leurs employés, le staff de Station F et toutes les équipes.
Et donc, vous avez donc à l'intérieur, donc vous avez une trentaine de programmes, c'est ça, qui sont donc parrainés par des grandes entreprises.
Des grandes entreprises, par exemple Microsoft sur l'intelligence artificielle. Ouais. On va voir Posos juste après qui a eu la chance de passer par ce programme-là. Thales sur la cybersécurité, Ubisoft sur le jeu vidéo, mais aussi des grandes écoles.
Facebook,
effectivement. Ouais. On a aussi des grandes écoles comme l'INSEAD, HEC, l'EDEC qui font partie. Des programmes qui sont aussi gérés en direct par le staff de Station F aussi. Donc on a un mix, une galaxie d'acteurs qui vont porter des programmes.
Alors Alexandra Boussommier, vous êtes une ingénieure en biomédical, vous êtes passée par la Suisse, le Royaume-Uni, les US, au fameux d'ailleurs MIT, et vous avez fondé Invitro il y a combien de temps à peu près?
Un an et demi, on va dire, à la mi-2019.
C'est vraiment tout jeune. Hein.
C'est assez jeune, oui.
Ouais. Et vous êtes passé, évidemment, vous avez participé, vous êtes passé par la Station F.
Exactement,
dans le programme,
au sein du programme Entrepreneur First, qui est un des programmes dont il parle.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez cette voie de la fécondation in vitro?
Alors, tout simplement, parce que je suis ingénieure médicale. Alors, sans être moi-même une experte de la fécondation in vitro, j'ai passé beaucoup de temps dans le laboratoire, j'ai un passé de chercheuse, et j'ai fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est cancer, glaucome, immunothérapie. Et en fait, le thème commun, c'était la microscopie. J'ai fait beaucoup de microscopie cellulaire et de culture cellulaire. Et il se trouve, donc, je passais beaucoup de temps dans le labo à regarder mes cellules, à les nourrir, à revenir tous les week-ends. Et vraiment, moi, je suis sortie de mes années de recherche avec un sentiment d'un réel manque d'automatisation qui, était encore tolérable dans le domaine de la recherche fondamentale, mais qui, au fur et à mesure qu'on se rapprocherait du patient, serait de moins en moins tolérable. Et donc, de fil en aiguille, j'ai cherché les applications de culture cellulaire et la FIV en est une.
Donc, votre sujet, c'est la FIV, la fécondation in vitro.
Absolument. Maintenant,
c'est l'infertilité, donc qui accroît avec le temps.
C'est ça. Donc l'idée, c'est que Invitro, donc la startup qui a été fondée en 2019, c'est une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité.
En gros, la fécondation in vitro, c'est de faire féconder évidemment une ovule et de faire en sorte que cet ovule se transforme en embryon ensuite pour l'implanter. dans l'utérus de la mère porteuse.
Exactement. Donc l'idée, c'est que vraiment, on essaye dans le laboratoire de recréer ce qui se passe normalement, naturellement, on va dire. Et donc c'est vraiment dans les grandes lignes, on prend les spermatozoïdes, les ovules, on génère des embryons, on va dire en moyenne 5 par couple. On doit les maintenir en vie dans le labo, et là,
ça existe déjà.
Absolument.
Mais quel est votre spécificité?
Bien sûr. Alors l'idée, c'est qu'en fait aujourd'hui, les taux de succès de la fécondation in vitro stagnent à peu près à 20 ou 30%. Donc le problème reste assez important. Ça veut dire que les patients doivent répéter ce problème trop souvent. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on propose une plateforme SaaS, donc une plateforme qui permet de prendre les décisions médicales, donc qui rythme la FIV, de manière plus robuste et traçable. Et la première qui nous intéresse, c'est l'évaluation des embryons pour avoir une idée de leur viabilité et pour savoir lequel a le plus de chances
d'être viable.
Exactement. Celui qui a le plus de chances de mener à une naissance.
Grâce à l'intelligence artificielle.
Absolument. Et donc l'idée, c'est que notre plateforme est basée sur des algorithmes de deep learning, donc d'intelligence artificielle, qui donc auront été entraînés sur des données rétrospectives, donc des vidéos d'embryons.
À partir de microscopes particuliers.
Exactement. Donc c'est des microscopes qu'on appelle les time-lapse microscopes. La particularité de ces microscopes, c'est qu'ils ont l'incubateur dans le microscope, ce qui permet de cultiver les embryons et de prendre des images toutes les demi-heures, on va dire, pendant 6 jours. Donc les cliniques de fertilité aujourd'hui sont assises, on va dire entre guillemets, sur ces tonnes de données qu'ils exploitent, mais qu'eux-mêmes vont dire déjà ça nous prend beaucoup de temps, et en plus il y a tellement de choses qui se passent biologiquement qu'on n'est pas sûr de capter toutes les informations. Alors, et donc c'est presque un cas d'école pour l'intelligence artificielle.
Vous êtes fiable à...
On va l'être. Oui,
d'accord.
On est encore en plein développement.
Donc vous êtes passé, vous, par la station F, vous n'y êtes plus?
Non, maintenant on est chez Agoranov, donc on est passé par station F, donc le programme Entrepreneur First, qui en fait, ils se décrivent comme des investisseurs dans le talent avant qu'il y ait une équipe et une idée. Donc c'est en général à court terme, 3 à 6 mois, et au bout de ces 6 mois, on est rentré dans l'incubateur Agoranov, qui est dans le 6e, qui est vraiment un incubateur que je recommande aussi vivement, et qui est beaucoup plus tourné Deep Tech.
D'accord. Donc vous êtes pour l'instant, vous ne gagnez pas d'argent pour l'instant.
Alors
vous
non,
avez été incubé, vous avez des investissements. Vous êtes plusieurs maintenant dans votre.
Alors maintenant on est 5, donc on a fait une levée de fonds plus d'un million cette année en avril de 2020. Et donc maintenant j'ai réussi grâce à cet investissement à faire grandir l'équipe. On est 4 aujourd'hui, bientôt 5 et j'espère bientôt 7. Toujours en recrutement actif.
Vous ne travaillez pas d'ailleurs que pour la France. Vous travaillez aussi dans d'autres.
Alors l'idée c'est que étant moi-même franco-espagnol et sachant que le marché espagnol à FIV est très intéressant, j'ai joué vraiment là-dessus dès le début, et donc on a des cliniques partenaires en France et en Espagne, et le but c'est de vraiment devenir internationaux dès qu'on peut, même si le marché français reste très intéressant.
Marouane, les start-up arrivent, elles restent le temps qu'il faut, ensuite elles repartent. Est-ce qu'à chaque fois vous versez quelques petites larmes ou alors des larmes de crocodile?
Toujours, mais c'est le prof même de Station F, on est là pour accompagner des projets très jeunes. En général, la Station F vous a trouvé des projets de 2 personnes, maximum 15, et ensuite il faut quitter les lieux. Et nous, tout l'enjeu qu'on a, c'est de garder ces startups autour de nous, à avoir une vraie communauté alumni, parce qu'il y a d'autres startups qui arrivent au quotidien.
Mais vous prenez après des nouvelles, ou alors une fois qu'elles sont parties, c'est fini?
On est en train de fédérer.
Bronzés, comme dans les bronzés, une de perdue, 10 de retrouvée. Non.
Non, c'est jamais fini. On est membre de Station F à vie.
Donc vous suivez les startups.
Toujours.
Est-ce qu'il y a des startups qui ne sont pas arrivées à leur fin? Ça peut arriver.
Ah, bien sûr.
Ouais.
C'est l'enjeu même du monde de la startup et de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Et l'idée de programme d'accompagnement, c'est de pouvoir les aider lors de ces premiers mois hyper critiques, voire ces 2 premières années qui sont très critiques. Mais effectivement, vous allez avoir des boîtes qui vont pas réussir, vous allez avoir des boîtes qui vont rejoindre d'autres projets. Et tout l'enjeu, c'est d'être dans une communauté pour pouvoir fédérer les succès et les échecs.
Mais à chaque fois, sans regret.
Sans regret, il faut...
Oui. C'est à partir d'échecs, parfois, qu'on se...
Et c'est le propre même de l'entrepreneuriat.
Oui. Merci Alexandra. Un dernier mot, très rapide. Le futur, que la FIV ou d'autres?
Non, c'est loin de là. C'est pas que la FIV, mais c'est une FIV qui a plus de succès pour qu'on puisse vraiment créer un chemin plus facile et plus serein pour les patients.
Et la cardio, ça m'intéresse, non?
On pourra en reparler à la prochaine levée de fonds.
D'accord, ok. Merci Alexandra, bravo pour votre entreprise. On va garder Marouane, Elfites, et on va accueillir Emmanuel Bibot, fondateur de Posos, ainsi que Anthony Virapin de chez Microsoft, qui a justement permis à cette start-up d'être hébergée à la Station F.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Emmanuel Bibot, bonjour.
Bonjour.
Anthony Virapin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de Saint-Malo?
Je suis à Saint-Malo.
Saint-Malo?
Absolument.
Et vous êtes là pour nous narguer, c'est ça, à Paris, nous. Très bien.
La technologie nous aide à faire le lien entre l'Ouest et
bien sûr. qui va se plaindre dans le check-up santé des nouvelles technologies. Et Marwan, vous êtes toujours avec nous. Emmanuel Bibot, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes diplômé de l'ESSEC Business School, et vous avez fait partie du programme Microsoft, et vous avez été hébergé pendant combien de temps
Pendant une année, ouais.
Pendant une année.
À Station F, ouais.
Grâce à Microsoft.
Grâce à Microsoft.
Justement, Anthony Virapin, vous êtes directeur des startups chez Microsoft et éditeur de logiciels. Comment sélectionnez-vous les jeunes pousses?
Alors, c'est effectivement les profils de startups qu'on va accompagner, ce sont des éditeurs de logiciels, donc des startups issues principalement du secteur du B2B, qui sont âgés de moins de 7 ans et qui ont déjà fait l'objet d'une première levée de fonds, parce qu'on est vraiment dans une approche d'accélération, donc on va rechercher des solutions qui sont déjà commercialisées pour les aider à la fois sur les aspects technologiques, mais également sur les aspects commerciaux avec Microsoft.
Donc déjà des entreprises qui ont déjà eu des fonds, qui ont déjà été investis.
Principalement, oui. En fait, l'idée, c'est d'accélérer des startups qui ont un produit qui existe déjà, qui est commercialisé, donc en général, qui ont déjà levé des fonds et qui ont une première traction, des premières références clients, pour aller encore plus loin avec elles.
Marwan, Anthony Virapin et Microsoft sont à la Station F depuis le début.
Depuis le début, ouais.
Ouais.
Depuis le début, depuis le lancement, on a la chance d'avoir Microsoft depuis 2007, ouais.
Ouais. Vous comptez y rester, Anthony Virapin?
Ouais, tout à fait. On y est effectivement depuis ouais. Le début. On a un véritable rôle de mentor technologique à Station F autour de l'intelligence artificielle, et c'est quelque chose qu'on a vraiment fait pendant les 3 dernières années autour de notre communauté qui s'est bien agrandie et qu'on continue de faire évoluer tous les mois de manière aussi différente sur des secteurs et des verticaux aussi différents.
Alors Emmanuel Bibot, on va revenir Bilbao, Emmanuel Bilbao, ouais. Bilbao, bien sûr, on va revenir donc à votre start-up qui s'appelle Posos. Alors vous êtes pharmacien, mais vous voulez donner des conseils aux médecins.
Alors c'est
on va presque se fâcher.
C'est vrai, ouais. On parle de prescription et ouais. Vous avez raison. On a en France 200 000 médecins qui tous les jours voient peut-être 5 à 10 patients. Mm-hmm. Quand on fait le calcul, c'est presque.
Non mais rassurez-vous pour l'avoir essayé, j'ai trouvé ça génial. Hein. Donc expliquez-nous. Oui.
C'est beaucoup de prescriptions. C'est ouais. Le rôle du médecin de prescrire. Or c'est complexe parce que vous avez face à vous 3600 médicaments, tous déclinés en différents dosages,
pas beaucoup de
différentes
temps.
Formes galéniques, ouais. Pas beaucoup de temps. Ouais. Chaque médicament interagit avec l'autre, peut être contre-indiqué avec un patient. Donc finalement, c'est extrêmement complexe pour un médecin de prescrire. La médecine est complexe et nous chez Posos on pense que en tout cas l'accès à l'information médicale ne doit pas être complexe. Alors, c'est le cas aujourd'hui.
Oui. Donc vous aussi utilisez donc un algorithme très particulier, vous utilisez l'intelligence artificielle. Donc en fait, vous étudiez quoi en fait pour le médecin qui va s'inscrire donc chez Posos quand il va imaginer une ordonnance, donc il va savoir donc sur les interactions, sur les effets secondaires, etc.
Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'un médecin, lorsqu'il prend une décision thérapeutique, qu'à chaque fois, il puisse s'appuyer sur les dernières données médicales. D'accord. Or, il y a énormément de données médicales, une connaissance énorme. Oui. Donc, on transforme toutes les connaissances médicales en réponses directement actionnables dans un outil d'aide à la prescription hyper simple à utiliser.
D'accord, pour est-ce qu'il peut vous me demander, est-ce que vous pouvez poser des questions sur sa prescription?
Exactement, à chaque étape, ouais. En fait, du choix du médicament jusqu'à l'adaptation de la posologie, à chaque fois, il y a un moteur de recherche dédié à l'intérieur de Posos qui permet au médecin de trouver tout de suite une réponse.
Alors, le médecin doit donner évidemment pas mal doit remplir pas mal de champs, donc pour que vous puissiez ensuite établir soit, ouais. Pas un diagnostic, mais une prescription.
Exactement, et c'est un petit peu la différence entre les logiciels existants, où il faut multiplier des clics pour avoir une information, et Posos, où on peut juste poser sa question comme on la poserait à un confrère. On donne des noms de médicaments sans chercher la forme galénique. Posos va automatiquement normaliser ça et apporter une réponse actionnable en pratique. Je pose une question, j'ai ma réponse, je prends ma décision. C'est d'accord, extrêmement
rapide. Ça change de ma première année d'installation où j'avais acheté le guide des premières ordonnances. C'était en 1728.
Et ça n'a pas changé depuis les outils, finalement.
Ça n'a pas changé. Ouais. Ça n'a pas changé. Et très bien. Donc, vous utilisez, évidemment, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est gratuit pour l'instant ou pas?
Alors oui, pour l'instant, c'est gratuit. On a lancé il y a 4 mois une version en ligne pour tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les infirmiers. On a 50 000 visiteurs chaque mois, donc c'est pas mal au bout de 4 mois.
Ouais.
Et on veut que ce soit gratuit le plus longtemps possible pour permettre aux médecins, en fait, de nous faire des feedbacks. Ouais. Ce qu'on adore, c'est qu'en fait, les médecins, tous les jours, nous appellent, nous envoient des messages, qu'ils ne font jamais en général, pour nous demander d'améliorer ça, d'apporter une fonctionnalité, d'apporter des données. Donc finalement, on se nourrit de ça. C'est un peu notre levée de fonds à nous.
C'est ça. Donc, vous alimentez donc en permanence vos algorithmes.
On veut créer l'outil le plus pratique, le plus simple, l'outil magique d'un médecin. Oui. Et on ne créera pas sans les médecins.
Vous êtes nombreux ?
On est 20 personnes. Ouais.
Ouais, j'imagine que vous avez dû faire des recherches aidées par des médecins, dont des soignants, des pharmaciens.
On va même plus loin que ça. Quasiment tous les jours, on appelle même des médecins au Canada, aux États-Unis. On leur demande comment ils utilisent leurs outils aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Et on s'inspire de tout ce qui existe pour créer ce qu'il y a de mieux en fait en France.
Donc pas seulement, vous disiez pas seulement les médecins, aussi les pharmaciens.
Les pharmaciens également, ouais. Les infirmiers.
Les infirmiers,
ouais, absolument.
Les infirmiers en général, ne sont pas prescripteurs, non?
Alors, mais par contre, ceux qui utilisent les médicaments aussi, ceux qui vont injecter les médicaments, faire des perfusions.
Peut-être pour alerter aussi donc le médecin ou pas.
C'est eux aussi qui doivent nous faire des feedbacks. En fait, ils nous font beaucoup de feedbacks, les infirmiers, sur des informations dont ils ont besoin, mais très pratico-pratique. On veut vraiment être du côté science. On a 36 millions de publications d'imposeuses qu'on peut requêter en français, hein, pour un médecin. Toutes ces publications sont en anglais. On pose la question en français, on les a d'imposeuses. Donc on va de la publication très scientifique jusqu'à la chose très pratico-pratique de savoir quelle ordonnance il faut utiliser pour le médicament. Est-ce qu'il faut le renouveler pour 3 mois, 6 mois?
Est-ce que ce n'est pas anonyme? Ou c'est anonyme?
Alors, on ne met jamais de données de noms de patients sur
Pozos. Pour le médecin. Donc,
Alors, le médecin s'inscrit. Ouais. Et en fait, ces données restent chez Pozos. Elles ne sont pas partagées.
Évidemment. Oui, donc vous n'allez pas dire après ce médecin est nul.
Et on ne dira pas non plus ce qu'il prescrit ou ce qu'il pose une question. Absolument.
Donc là, vous n'êtes plus maintenant à la station F.
Oui. Depuis peu de temps finalement.
Vous êtes où maintenant, donc vous êtes...
On est au village Baïséa, donc on est toujours à Paris, mais on est 20 personnes, donc c'est un peu gros pour Station F, c'est plutôt des petits programmes. On arrive dans un nid, on nous fait grandir, on nous accompagne, et grâce à ça, aujourd'hui, on se développe et on prend beaucoup de plaisir toujours.
Marwan, ne me dites pas que vous êtes limité par le temps et l'espace, non?
On l'est pas, mais on est limité par notre mission. On est là pour vraiment aider, comme tu le disais, à faire grossir les startups et qu'elles puissent partir dans des bonnes conditions économiques et ensuite, effectivement, trouver un autre espace.
Ouais. Anthony, vous avez gardé des nouvelles de Pozos, j'imagine?
Absolument. En fait, le partenariat continue évidemment après même l'AI Factory, donc ce programme d'intelligence artificielle à Station F. Il y a un véritable partenariat avec Pozos qui s'inscrit dans la durée. Donc, c'est vraiment notre ambition avec les éditeurs de logiciels et les startups qu'on accompagne, c'est de construire, de co-construire avec elles, de les aider d'un point de vue technologique évidemment, mais de poursuivre cette relation aussi sur les aspects commerciaux, sur les aspects marketing, visibilité. Donc, bien sûr, ça continue.
Ouais. Donc, pas de regrets avec Pozos.
Non, pas du tout.
Est-ce que parfois vous êtes intéressé financièrement après au développement ou à la commercialisation d'un produit?
Alors c'est pas directement ce qu'on va rechercher nous chez Microsoft. Encore une fois, je pense que le bon mot c'est partenariat. C'est ce qu'on a fait avec cette AI Factory et donc ce programme à Station F, un laboratoire de co-innovation. Donc c'est vraiment ça l'ambition pour nous, c'est de fédérer un écosystème de start-up et d'éditeurs autour de nous qu'on va aider, qu'on va faire grandir et sur laquelle on va continuer à développer du business en les connectant derrière avec nos clients, avec nos partenaires également, avec l'écosystème de TPE, PME. Donc c'est vraiment ça l'objectif pour nous et l'ambition.
Emmanuel Bilbo, pour finir, il n'y a pas un problème aussi de responsabilité? Vous pouvez vous tromper, non?
Alors, on ne crée pas d'informations. Toute l'information qu'on utilise vient de sources d'autorité validées. Nous, ce qu'on fait, c'est que l'information, on la rend accessible. On transforme cette information qui est immense en réponse très simple. Mais l'information reste fiable puisque c'est des experts, beaucoup de médecins notamment, qui les écrivent.
Marwan, vous avez une trentaine de programmes, pas plus, donc vous êtes dragué par de nombreuses entreprises?
Très souvent, et c'est aussi c'est le rôle qu'on a. Nous, on doit à Station F épouser les dernières tendances. Donc, on doit s'assurer qu'on a un programme de start-up à Station F qui va représenter une tendance technologique et avoir le meilleur acteur derrière. Donc, on est effectivement approché par différents groupes, mais on va du coup les sélectionner, voir leur objectif et voir s'il s'agit d'acteurs de plus pertinents.
Et ensuite, ces programmes sont autonomes.
Ils sont autonomes. Doivent sélectionner les start-up, ils doivent les accompagner. Ouais. Et nous, on apporte une couche globale d'accompagnement.
Vous n'êtes pas qu'hébergeur. Vous n'êtes pas le taulier des...
Non.
Qu'hébergeur.
On accompagne avec aussi la mise en relation avec des fonds d'investissement, avec l'animation du campus, avec pas mal de workshops qu'on va mettre en place. Mm-hmm. On a aussi nos propres programmes, donc on a aussi cette relation en direct avec les start-up.
Parfait, Anthony Virapin, merci beaucoup.
Merci.
Merci Emmanuel Bibot, merci beaucoup. On va garder, on va rester encore avec Marwan et on va accueillir notre troisième start-up, LC Mind, et son fondateur Reda Quadra.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Reda Quadra, bonjour.
Bonjour.
Marwan est toujours avec nous, il a tapé l'incruste. Hein.
C'est ça, moi je reste là.
Il veut plus partir. Donc Marwan Efites, qui est le patron des programmes start-up de la station F. Donc Reda Quadra, vous avez fondé donc LC Mind. Vous avez étudié à Strasbourg, EM Strasbourg, Télécom Physique, ingénieur en santé, spécialiste en robotique médicale et traitement de l'image. Vous avez fondé LC Mind à partir d'une expérience personnelle?
C'est ça, enfin, mes deux parents souffrent de douleurs chroniques et ils sont arrivés à un point où les médicaments ne font quasiment plus rien. Ils sont atteints d'arthrose. Généralement, les idées viennent de problèmes et c'est vraiment, enfin, très jeune dans ma vie, vu que j'ai vécu ça, Je me suis orienté naturellement vers la médecine, mais vu que j'aime bien la tech, bah, du coup, j'ai combiné entre l'ingénierie et la médecine pour du coup fonder l'entreprise avec mes deux associés, Timothée Cabane et Malou Louvigné.
D'accord. Donc, vous êtes toujours à la station F?
C'est ça.
Vous êtes partie du programme
IPEPS de l'ICM.
De l'ICM, de l'Institut du cerveau et de la moelle. Ouais. Donc, vous avez démarré en 2017?
Exactement. Enfin, on a fondé la boîte en 2017, novembre 2017, et puis on a commercialisé en 2019.
D'accord. Donc, vous commencez déjà à commercialiser. Hein.
Oui.
Oui, d'accord. Et donc, vous utilisez la réalité virtuelle pour le traitement de la douleur, c'est bien ça?
C'est ça. Pour le traitement de la douleur et la réduction d'anxiété également. Mm-hmm. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on combine neurosciences, hypnose clinique et réalité virtuelle pour du coup créer un produit qui est optimisé pour la réduction de douleur et d'anxiété.
Ouais.
Et vraiment notre vision à long terme, c'est pouvoir, enfin aujourd'hui si je pose la question, qu'est-ce que c'est un médicament, on va directement penser aux médicaments qu'on achète à la pharmacie, donc plus dans le domaine de la chimie.
Ouais. J'ai adoré votre expression là, le premier médicament digital.
C'est ça. Donc ouais. Nous notre but c'est vraiment de créer un médicament digital qui est modulable et dynamique. Et par dynamique je veux dire qui s'adapte dynamiquement à l'état du patient. Et pour ça, en fait, on a un projet justement R&D qui est principalement sur ça.
Oui. Et donc, comment ça se passe? Alors, donc, évidemment, vous ne fabriquez pas, vous, des appareils de réalité virtuelle.
Non.
Vous les utilisez.
C'est ça.
Donc, vous avez donc des algorithmes. Donnez-nous un exemple.
Alors, typiquement, une expérience classique, ça commence avec une intro. Après, on a l'environnement et on a une sortie hypnotique. Donc, typiquement, le produit en lui-même consiste à immerger les patients dans des environnements 3D naturels, où chaque détail a été calculé et testé pour que ce soit le plus efficace possible. En gros, une plante, elle bouge dans l'environnement, elle a été calculée pour bouger avec une certaine fréquence pour que le patient puisse caler sa respiration avec cet élément-là. Et ça, c'est présent pour chaque élément de la scène.
La respiration est calée naturellement ?
Exactement. On a en fait un exercice de respiration qui est intégré à la scène et aussi chaque élément de la scène a été calculé pour que si la personne veuille regarder pas typiquement une plante, elle peut aussi caler sa respiration avec cet élément-là.
Ouais. On parle aussi d'hypnose, vous parlez d'hypnose aussi?
Exactement, on a de l'hypnose clinique, on est partenaire avec justement Catherine Bernard, qui fait partie du comité scientifique, qui est dirigeante du DU Hypnose à Paris-Sud, et hypnothérapeute et anesthésiste depuis plus de 25 ans, et c'est elle qui a écrit les scripts hypnotiques de nos environnements.
Ouais. Vous disiez avant notre entretien que il fallait aussi compter sur les goûts des patients.
Exactement. En fait, il y a une grosse
par exemple la musique.
Exactement. Il y a une grosse étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que il y avait pas de différence de relaxation suivant le type de musique. Parce que typiquement, si on pose la question, on s'oriente plus vers la musique classique pour la relaxation. Mais au final, ils ont vu que si la personne aime la musique classique ou le hard rock par exemple. La relaxation était quasiment pareille, et c'est exactement le même principe qu'on applique pour les environnements. Alors, également.
C'est sûr qu'entre Lara Fabian et Led Zeppelin, il y a une, y a une marge. Marwan, vous côtoyez évidemment les start-upers, vous le voyez souvent, Reda?
Ouais. Oui, en plus il fait partie d'un classement qu'on appelle le Futur 40 à Station F, qui regroupe les 40 start-up les plus prometteuses. Donc on les met en avant, notamment auprès des investisseurs, ça on l'a fait il n'y a pas très longtemps, donc bien sûr, ouais.
Vous avez de bons retours donc de ce que vous faites?
Oui, on a eu justement.
On peut mesurer donc le degré de diminution de la douleur.
Oui.
Il y a des échelles d'intensité, oui.
En fait, là actuellement, on a 8 études qui sont en cours avec justement plusieurs hôpitaux en France, Suisse et Belgique, parce que c'est là où on est commercialisé actuellement. Et on a 2 abstracts qui ont été publiés à l'ASFAR, donc la Société française d'anesthésie et réanimation. Et le premier, c'est 57% de réduction d'anxiété en pédiatrie. Et le deuxième, c'est 80% de réduction de consommation morphinique après chirurgie de scoliose.
D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser votre réalité virtuelle pendant, par exemple, un soin qui fait mal?
Exactement. Normalement, c'est utilisé avant, pendant ou après. Donc, c'est utilisé avant pour réduire l'anxiété ou la réduction de médicamenteuse. Mm-hmm. C'est utilisé pendant pour justement réduire la douleur, la consommation médicamenteuse et les gestes involontaires des patients. Ou typiquement pour augmenter le taux d'utilisation d'anesthésie loco-régionale. Parce qu'on peut remplacer l'anesthésie générale par une anesthésie locale plus notre solution. Et en post-opératoire, où là, il n'y a plus vraiment d'anxiété, mais l'anxiété laisse place à la douleur. Et là, on traite vraiment la réduction de douleur post-opératoire, la réduction d'opioïdes, et puis également l'accélération du rétablissement du patient.
Vous travaillez avec de nombreux hôpitaux, je crois.
Alors là, on est actuellement dans plus de 60 hôpitaux en France, Suisse et Belgique. Oui.
Carrément, oui. Et vous disiez que vous aviez doublé votre chiffre d'affaires en un an?
Quasiment.
On
ne
va pas donner de chiffres, hein, mais.
Quasiment. Ça,
c'est...
Oui.
Et donc, et votre, le futur, c'est quoi, l'évolution?
Notre futur, c'est vraiment, enfin, toujours dans la même vision que j'ai présentée avant pour le, un médicament qui est modulable. On va aller plutôt vers les neurosciences, mais on va vraiment mettre un gros pas dedans avec un logiciel qui s'appelle Scoreman, qui est du coup un EEG qu'on place sur la tête du patient pour capter l'activité cérébrale du patient. Et avec cette activité cérébrale, on va passer avec un algorithme d'intelligence artificielle dans notre solution pour du coup avoir des environnements qui s'adaptent dynamiquement à l'état du patient et derrière aussi scorer la douleur et l'anxiété du patient également en temps réel.
Alors Marwan, donc la station F héberge des startups de tout type, mais aussi des startups santé. Est-ce qu'elles ont une certaine, il y a une spécificité des startups santé? Est-ce qu'elles travaillent différemment des autres?
Oui, ben on l'a vu hein, aujourd'hui avec tous les entrepreneurs qu'on a eu la chance d'écouter. En termes de profil déjà, on voit les équipes, c'est souvent un lien entre des équipes médicales, professionnelles de la santé avec des ingénieurs. Ça, c'est ce qui est assez exceptionnel de voir cette alliance entre les deux. On voit des cycles de développement produits très longs, qui demande du coup des fonds aussi assez conséquents, donc pour pouvoir recruter aussi des personnes assez spécialisées, des data scientists par exemple. Et on voit aussi un usage de la donnée qui est très forte. On a entendu depuis tout à l'heure des termes comme machine learning, comme deep learning, l'intelligence artificielle au sens large. Il faut pouvoir exploiter ces données. Mm-hmm. Et à côté de ça, il y a une notion de régulation aussi qu'il faut pouvoir aussi gérer.
Et les startups santé, est-ce qu'elles requièrent plus d'investissement que les autres?
À court terme, oui, pour avoir une bonne équipe et pouvoir mener des tests d'époque et pouvoir prouver son modèle.
Oui.
Bien sûr.
Bon, j'imagine que vous n'allez pas nous donner les chiffres exacts, mais est-ce qu'elles réussissent un peu plus que les autres ou pas? On peut pas faire de généralité.
On peut pas faire de généralité, mais l'alliance et le capital humain qui est exprimé dans ces boîtes montrent qu'elles ont de très fortes probabilités pour avancer très loin.
Bon, est-ce que Check-up Santé a une entrée gratuite donc chez Station F?
Ah oui, c'est déjà le cas, oui.
Bon, c'est déjà le cas. Ok, merci. Merci Marwan, c'est merci. Fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités, Alexandra Boussommier, Emmanuel Bilbao, Reda Quadra, Marwan Elfites et Anthony Virapin. À la semaine prochaine.